Bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Il y a quelques semaines, j'introduisais et on partageait sur un verset de Philippiens, Philippiens 2, 15, qui disait « Afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi lequel vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. » Vous vous souvenez, briller comme des flambeaux, briller comme des lanternes, briller, briller, briller de toute façon. Si vous avez autre chose dans votre Bible, moi je suis toujours la version seconde 1910. Et il y a 15 jours, j'ai introduit notre culte par la seule partie théologique de cette épître aux Philippiens. Et ce chant que nous venons de chanter introduit bien cette lecture dans Philippiens 2, 5, 11. « Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Jésus-Christ notre exemple, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. » En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme l'un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. J'aimerais continuer avec vous quelques réflexions que l'on découvre encore dans cette épître aux Philippiens où Paul l'a écrit, il était en prison. Faire quelques lectures et puis j'ajouterai aussi quelques petites notes et quelques versets en plus. Et je vous propose de lire Philippiens 2, les quatre premiers versets dans Philippiens 2. Philippiens 2, 1 à 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité ou l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et je lirai le verset 5 qui introduit ce que nous avons déjà lu avant. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons encore nous mettre devant toi, devant ce texte qui va nous parler, parce que c'est ta parole. Seigneur, nous entendons à toi. Nous savons que tu es là, que tu nous as précédés, tu as été jusqu'au bout pour nous ouvrir la voie, pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous rendre heureux et dans la paix. Qu'à toi revienne toute la gloire. Amen. L'épître aux Philippiens, comme je l'ai déjà dit, porte bien le nom d'épître de la joie. En effet, elle comporte 16 occurrences de la joie ou de mots qui sont de la même famille, quoi. Et Paul insiste auprès de la communauté, réjouissez-vous, je le répète, il l'a dit aussi, je le répète, réjouissez-vous. Comme j'ai déjà dit, je pense qu'il n'a pas trouvé d'autre mot pour stimuler sa communauté, réjouissez-vous. Pourtant, Paul est en prison, il le déclare lui-même, je suis dans les liens, il a fait connaissance avec tout le monde, avec le monde judiciaire, et son témoignage a été quelque chose de poignant. Et il le dit lui-même, Philippiens 1, 13, « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est en Christ et c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Il est emprisonné à cause de Christ. Mais sa joie est dans les chaînes par son Sauveur. Il est dans la joie parce qu'il sait que Jésus-Christ est son Seigneur et Sauveur. Et il a une espérance, quoique il veut uniquement que Christ soit glorifié. Et dans Philippiens 1, 20, je vais chaque fois répéter Philippiens, mais on est toujours dans la même épître, 1-20. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié. Quoi qu'il arrive, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Le secret de cette joie de Paul est la communion avec son Seigneur, qui est au centre de sa vie. Tout est centré sur Christ. Et il sait très bien, peut-être, l'avenir qu'il lui réserve.
en Christ en tout cas. Et la semaine dernière, je ne sais pas, vous avez peut-être vu ou enregistré le culte de la semaine dernière à la télévision en France, et c'était sur le chemin. Le thème était le chemin, et plusieurs personnes étaient interrogées dans la rue, dans la ville, comme ça, et on interrogeait des gens, c'est quoi le chemin, ben c'est ça, moi c'est des cailloux, Et puis on a interrogé un sociologue qui partageait, lui, sur le chemin de la vie, et il comparait la vie à un trajet à parcourir avec certaines étapes. On arrive à certaines étapes. Et puis, quelque chose qui m'a attiré, il dit finalement, il prend l'exemple de l'arrivée d'une personne dans une maison de retraite qui était pour lui la pire des étapes, car il n'y avait plus de chemin après. Il estimait qu'il n'avait plus de chemin après. Et automatiquement, j'ai pensé à ma mère qu'on vient de mettre en maison de repos il y a 6 mois, plus ou moins, et elle dit, c'est pour le reste. Oui. De toute façon, quand on achète une maison, on y est pour le reste. Donc ça ne changeait pas grand-chose, mais sous-entendu, il n'y a plus rien après. Il n'y a plus de chemin après. Après cette maison de retraite, il n'y a plus rien. Sauf si on croit en Dieu. Parce que si on croit que la mort est la fin, effectivement, il n'y a plus de chemin après. Mais pour Paul qui est en prison, c'est pareil. Il aurait pu dire, c'est la fin. Je suis en prison, c'est fini, je ne sais pas où je vais. Et pour info, l'apôtre a été emprisonné par 3 fois. 3 fois, et bon, je veux dire, peu importe d'où il a écrit cette lettre, ce serait dans la deuxième fois ou la troisième fois, peu importe. Mais il est quand même dans une situation extrême où il ne sait pas où il va. Son avenir terrestre est incertain. Un peu comme l'exemple d'Olivier Van de Castel, qu'on a tous vécu, à la TV, évidemment. Il reste détenu pendant plusieurs mois, mais à savoir sa finalité. Qu'est-ce qu'il a pu penser pendant ces jours et ces jours? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que je vais revoir ma famille? Tout est incertain. Et pour Paul, rien n'y fait. Lui, quelle que soit l'issue, quel que soit ce qui va se passer, il a la joie. Et il dit aux autres, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Il a la joie dans le cœur. D'abord par sa foi en Jésus. Il sait de toute façon qu'il y a un chemin après la mort et qu'il est de loin supérieur parce que c'est la vie éternelle. Il n'a donc pas peur de déclarer que pour lui la mort terrestre est un gain. C'est pas facile, je sais. Dire que c'est fini, on s'en va. Je ne suis pas tout seul, je suppose. Mais il y a encore quelque chose d'autre qui le maintient et c'est la joie du souvenir de la communauté de Philippe. La joie de la communauté, la joie de l'Église. Verset 1, chapitre 1, 3, 5, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Il est heureux, heureux de son Église. Mais il en veut davantage pour cette Église. Il attend plus de cette Église. Notre texte de base que nous avons lu, verset 2, « Rendez ma joie parfaite. » Il dit qu'il est dans la joie en voyant la communauté et il leur dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Rendez ma joie parfaite, suivi des 4 demandes de ce texte, de ce verset 2, qui font un peu écho avec ces 4 constatations du verset 1er que nous avons lu, 4 constatations que je vous répète, avec des « si ». Si donc il y a quelque encouragement en Christ, s'il y a quelque consolation dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque tendresse et miséricorde entre vous, si. Mais en grec ancien, le « si » exprime davantage la confiance. La confiance de l'apôtre dans l'exigence de ses qualités spirituelles chez les Philippiens, plutôt que notre « si » de doute. Nous, on a quand même un « si ». C'est une condition, quoi. Si tu me donnes ça, je te donne ça. Si, non. En grec, c'est plus le si d'affirmation. Et la traduction plus judicieuse serait « puisque vous avez trouvé un réconfort dans le Christ, puisque vous avez trouvé un encouragement dans l'amour, puisque il y a une communion d'esprit entre vous et que vous avez de l'affection et des bontés pour les uns pour les autres, puisque, alors vous pouvez être parfaitement unis. Puisqu'il y a ça, vous pouvez être parfaitement unis, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Les quatre mêmes montrent les ajustements qui sont nécessaires à l'église de Philippe. En résumé, Paul se réjouit de l'état de l'église de Philippiens, mais il pousse vers la perfection. Il les pousse vers la perfection. C'est pas possible. Mais non. Ils sont quand même arrivés à une étape du chemin, mais il leur accorde encore, il y a encore de la route à faire. Il est en prison, il y a encore de la route à faire. Réjouissez-vous, il y a encore un après. Et c'est ce qu'il leur a déjà dit au chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. La perfection pour le jour de Jésus-Christ. Et il continue au verset 9 et 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire, à la louange de Dieu. Verset 10, que nous avons déjà lu, afin que vous soyez irréprochables. Être irréprochable et pur, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. Irrépréhensible, sans reproche. Paul dit aux Philippiens, en quelques mots, « Je suis dans la joie parce que vous vous entendez bien. Vous avez trouvé la compassion, la consolation, vous avez trouvé de l'amour dans la communauté. Mais il en faut plus pour être une vraie église de Christ. » De vrais témoins de la puissance de la résurrection dans notre monde pervers. Le chemin n'est pas fini. Il en faut encore plus. Irréprochable, sans reproche. L'église de Blény nous semble bien. Nous sommes un peu comme une famille. Nous nous entendons bien. Nous ne sommes pas une église de retraite ou de repos. Le chemin est devant nous. Oui, si même le physique ne suit pas, le spirituel a encore besoin de grandir, d'avancer sur le chemin. On a encore besoin de maturité. On doit faire un pas en avant. On doit avancer, on doit grandir. Je vous rappelle quand même que cette lettre a été écrite aux saints, au Jésus-Christ, aux évêques et aux diacres, voir chapitre 1, verset 1, donc pour tout le monde. Même toute la communauté, même les responsables et même celui qui vous parle. C'est pour moi aussi, c'est pour tout le monde. Il s'adresse à toute la communauté et aux responsables. Nous sommes tous dans le même bateau ou dans le même bâtiment. On rame tous. Si on rame tous ensemble, on avancera, on grandira. Or, de notre texte de base, on n'a discuté que de deux versets. Et l'on pourrait les définir comme deux strophes d'un poème. Moi, j'ai trouvé extraordinaire. Ou d'un cantique, vu la structure que l'écriture était soignée. Je ne vais pas vous mettre tous les détails d'un cours de théologie, hein, avec les mots qui sont l'un à l'autre, qui se retrouvent l'un à l'autre, la première phrase avec la quatrième. C'est extraordinaire. Je ne peux pas dire que tous ces détails sont l'œuvre du hasard. Moi, je pense, quand je vois ça et que je vois la structure qui est faite, aussi bien faite, il n'y a que Dieu qui peut donner de telles paroles à un homme en prison. Et je reviens à ce que j'appelle mon poème, la première strophe qui nous donne les quatre phrases de l'état de l'Église charnelle, mais Église quand même, je vous rassure. La deuxième strophe nous montre les quatre volontés spirituelles que l'Église devrait avoir, selon l'enseignement de Paul. Et la troisième strophe, le troisième verset, nous révèle le problème spirituel auquel l'Église doit faire face, et elle pointe vers le remède. C'est en sorte la conclusion de ces deux premiers chapitres de l'Épître, par deux « mais ». En grec, il y a deux « mais » dans la phrase, dans le texte original, pour attirer l'attention sur les maux, les tracas, les dangers qui guettent l'Église. Premièrement, c'est l'esprit parti et la vaine gloire. Et deuxièmement, l'égoïsme, qui ne considère que ses propres intérêts. Moi tout seul. Et ce mot qui ronge l'Église et son témoignage, Paul oppose la vraie attitude chrétienne, l'humilité. L'humilité qui respecte et considère les autres au-dessus de soi-même, qui regarde les intérêts de l'autre et son bien-être. L'humilité qui fait garder les autres au-dessus de moi-même. L'humilité qui me fait dire « je ne suis pas mieux que les autres ». L'humilité qui me rend obéissant. L'humilité qui brise mon orgueil. 1 Pierre 5,5 nous dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans votre rapport mutuel, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et choisis ce verset, parce qu'il commence « De même, vous qui êtes jeunes. » Ça ne nous concerne pas, hein. On supprime ça, et on commence « Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Première partie, d'accord, mais le tous, il est là. Nous sommes tous concernés par l'humilité, en opposition à l'orgueil. Et de plus, si Dieu s'en occupe, on n'a pas d'excuse, il résiste aux orgueilleux. Mais finalement, c'est quoi l'orgueil? Mais je vais te voir la définition, parce qu'on dit l'orgueil, ah, c'est ça, c'est ça. Le Larousse, voilà ce qu'il dit, sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Et il dit « être bouffi d'orgueil ». Et notre source, présomption, estime exagérée, amour excessif de soi-même, qui fait que l'on est persuadé de sa propre excellence. Persuadé de sa propre excellence. Que l'on se juge supérieur aux autres. Dans la tradition catholique, c'est le premier des 7 péchés capitaux. C'est pas n'importe quoi. Dans les écrits du Nouveau Testament, nous trouvons souvent le mot « orgueil » accompagné de « enflé ».« Enflé d'orgueil », qui joue un peu le « bouffi d'orgueil », comme dans le dictionnaire, quoi. Hein. Le gros coup, c'est moi. Vous me voyez, j'avais envie de monter sur une chaise. C'est pas parce qu'on est plus haut qu'on est mieux. Hein. Dans toutes les définitions de l'orgueil, il y a toujours quand même un rapport à l'autre. On n'est pas orgueilleux tout seul. Ça n'aurait aucun sens. C'est tout seul ici, d'ailleurs. Aucun sens. On est rempli d'orgueil, toujours par rapport aux autres. Et Paul, dans sa prison, est préoccupé par l'état spirituel de l'église de Philippe. Et à plusieurs reprises, dans sa lettre, il fait des recommandations pour ne pas tomber dans ses travers. Dans le premier chapitre, il a déjà demandé à ses membres qui vivent d'une manière digne, vivre d'une manière digne, de l'Évangile en demeurant ferme dans un même esprit et combattant pour une même âme pour l'Évangile. Ensuite, chapitre 2, verset 14, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Daniel a dit, hein, tantôt, les Liégeois, hein, fracassez pas le borin, c'est les mêmes. « Faites tout sans murmure ni hésitation. » Bon, tu vas faire ça. Au chapitre 4, 2, il précise et nomme des personnes. J'exhorte Ovide et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Ces deux chrétiennes, elles sont dans l'Église. Il demande de se faire connaître par la douceur, verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et rappel de 1 Pierre 5, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Et le verset 5 que nous avons lu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et pour ce verset, je m'en remettrai davantage sur la traduction en français courant, qui dit « Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. » C'est un peu plus précis. Ou encore quand on est uni à Jésus-Christ. J'ai lu quelques commentaires, il y en a qui disent une sorte, il y en a qui disent l'autre. J'ai trouvé que « Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ » était plus profond, plus sensible avec les autres. Et c'est parce que, en fait, nous sommes chrétiens que nous devons nous comporter comme chrétiens. Vous avez certainement déjà entendu cette réflexion. « Tu vas à l'église, toi ? Tu crois en Dieu ? Tu es chrétien ?» Cette manière interrogative, l'autre qui nous pose des questions, étonnés comme ça. Peut-être que notre attitude, nos pensées, nos actes, nos vies ne reflètent pas vraiment ce que Jésus demande. Ou que nous ne sommes pas vraiment ce qu'il demande. Pourtant, elle a été un exemple. Nous avons déjà lu, et je vous le relis en français courant. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition du serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité. Il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux. Et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est Seigneur. Vous avez vu les résultats ? Jésus s'est humilié. Dieu l'a élevé. À nous de faire un pareil. C'est sûr que être sans reproche de nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Heureusement, on a le Saint-Esprit, on a la parole de Dieu, on a tout pour être parfait, nous, pas sur cette terre, mais quand Christ reviendra. Et je confirme par Jacques, le propre frère de Jésus, et Pierre, le bras droit de Jésus, humiliez-vous devant le Seigneur et, vous connaissez la suite, il vous élèvera. 1 Pierre 5, 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin, au temps convenable, il vous élève. Et si Paul recommande à l'église de Philippe toutes ces choses, c'est parce qu'il les veut sans reproche, en faisant un maximum pour y arriver. Le reste, c'est Dieu qui le fait. Et il y aura des résultats. Et je termine, Philippiens 4, 7, et la paix. Et la paix. Il clôture son épître. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur Jésus, c'est sûr que tu étais notre exemple. C'est sûr que nous ne sommes pas dignes de les souligner. Mais Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Tu peux nous faire grandir. Tu peux nous faire avancer. Tu peux continuer l'œuvre que tu as démarrée en nous, d'être sans reproche devant toi. Mais à toi, une fois encore, revient toute la gloire. Amen. Je vous invite à chanter ce chant, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême.